Chapitre 5. En sortant de chez les Kalitines, Lavretsky rencontra Panchine. Ils se saluèrent froidement. Lavretsky rentra chez lui et s'enferma. Il éprouvait des sensations qu'il n'avait jamais ressenties. S'était-il écoulé beaucoup de temps depuis qu'il était plongé dans cet état de paisible torpeur? S'était-il écoulé beaucoup de temps depuis qu'il se sentait, comme il le disait, au fond de la rivière? Mais qu'est-ce qui avait donc changé sa situation? Qu'est-ce qui l'avait amené à la surface? Le phénomène le plus ordinaire, le plus inévitable, quoique toujours le plus inattendu, la mort. Oui, mais il ne pensait pas autant à la mort de sa femme, à sa propre liberté, qu'à la réponse que Lise donnerait à Panchine. Il sentait bien que depuis 3 jours, il la regardait avec de tout autres yeux. Il se rappelait qu'en retournant chez lui, dans le silence de la nuit, il s'était dit « Oh, si d'autres circonstances, autres... » Ce vœu à peine formulé, ce rêve appliqué au passé, à l'impossible, le voilà donc qui se réalisait, bien que d'une autre manière. Mais sa liberté à lui était insuffisante. « Elle obéira à sa mère, pensait-il, elle épousera Panchine. Si même elle s'y refusait, ce refus changerait-il ma position ?» En apercevant sa figure dans une glace, il haussa les épaules. La journée passa rapidement dans ses réflexions. Quand vint le soir, Lavretsky se rendit chez les Kalitines. Il marchait vite, mais en approchant de la maison, il ralentit le pas. Le drotchki de Panchine était déjà à la porte. « Eh bien, pensa Lavretsky, je ne serai pas égoïste. » Il entra. La maison semblait déserte et le silence régnait au salon. Il ouvrit la porte et aperçut Maria Dmitrievna qui faisait son piquet avec Panchine. Panchine le salua en silence et la maîtresse de la maison s'écria en fronçant légèrement les sourcils « Ah ! Oh, nous ne vous attendions pas !» Lavretsky s'assit auprès d'elle et s'occupa de son jeu. « Connaissez-vous donc le piquet ?» lui demanda-t-elle avec impatience, en se plaignant d'avoir mal écarté. Panchine compta 90 et fit s'élever avec une froide politesse et une expression de dignité calculée. C'est ainsi que doivent jouer les diplomates. C'est ainsi que Panchine avait joué à Pétersbourg quand il avait affaire à quelques grands dignitaires auquel il voulait inspirer une haute idée de sa sagesse et de sa maturité. 101, 102, cœur, 103, disait-il en cadence, et Lavretsky avait peine à démêler si c'était la suffisance ou la contrariété qui donnait cet accent à sa voix. « Peut-on voir Marfa Timofievna ?» demanda-t-il en observant que Panchine prenait des airs encore plus dignes en mêlant les cartes. L'artiste avait disparu complètement en lui. « Oh, je crois aller chez elle en haut, » répondit Maria Dmitrievna. « Vous pouvez la demander. » Lavretsky monta. Il trouva Marfa Timofievna également à sa partie. Elle jouait au Durashki avec Nastasia Karpovna. Prosecca se mit à japper, mais les deux vieilles lui firent un accueil cordial. Marfa Timofievna semblait surtout de bonne humeur. « Ah, Fedia, soyez le bienvenu, lui dit-elle. Prenez place, mon petit père, nous allons achever notre partie. Tu veux des confitures ?» « Chourotchka, apportez-lui le pot aux fraises. »« Ah, tu veux pas ? Bon, alors reste là, mais ne fume pas. Je ne puis souffrir votre vilain tabac. D'ailleurs, il fait éternuer ma trosse. » Lavretsky s'empressa de rassurer la vieille dame en protestant qu'il n'avait nulle envie de fumer. Tu étais en bas, continua-t-elle. Qu'as-tu vu là? Panchine n'en bouge pas. Élise, l'as-tu vue? Non, elle voulait venir ici. Ah, la voilà. Il suffit de prononcer son nom, elle apparaît aussitôt. Lise rougit en apercevant Lavretsky. Oh, je viens pour une minute, Marfa Timofeyevna, commença-t-elle. Pourquoi pour une minute? Interrompit la vieille femme. Vous êtes toujours pressée, vous autres jeunes filles. Tu vois, j'ai une visite, jase un peu avec lui, occupe-le. Lise s'assit au bord de la chaise, et levant les yeux sur Lavretsky, elle sentit qu'elle avait à lui communiquer le résultat de son entrevue avec Panchine. Mais comment le faire? Elle était embarrassée et confuse. Elle ne le connaissait que depuis bien peu de temps. Et cependant cet homme, qui allait rarement à l'église, qui portait si légèrement la perte de sa femme, voilà qu'elle en fait son confident et qu'elle lui ouvre tous les secrets de son âme. À la vérité, il s'intéresse à elle, elle croit en lui, et vers lui, l'entrée d'une force irrésistible. Néanmoins, elle se sentait honteuse, comme si un étranger avait pénétré dans sa chambre virginale. Marfa Timofeyevna lui vint en aide. Ben, « si tu t'occupes pas de lui, que fera ce pauvre homme? Je suis trop vieille pour lui. Il a trop d'esprit pour moi, et pour Nastassia Karpovna, il est trop vieux. Elle ne sent pas qu'à la verte jeunesse. « Comment amuserais-je donc, Théodore Ivanovitch ?» murmura Lise. « Oh, je lui jouerais plutôt quelque chose au piano, s'il le veut, » ajouta-t-elle d'un accent indécis. « Ah, merveille, t'es un petit ange d'esprit, » répondit Marfa Timofeyevna. « Descendez, mes enfants, quand vous aurez fini, revenez. »« Bien, me voilà capot, oh, ce dont j'enrage. »« Alors, ma revanche. » Lavretsky suivit Lise. En descendant l'escalier, Lise s'arrêta. « On n'accuse pas en vain les femmes d'inconséquences, » dit-elle. « Votre exemple aurait dû m'effrayer et me tenir en défiance contre les mariages d'amour et je... »« Vous avez refusé ?» interrompit Lavretsky. « Non, mais je n'ai pas consenti non plus. » Je lui ai dit tout ce que je sentais et l'ai prié d'attendre. « Êtes-vous content ?» ajouta-t-elle avec un sourire rapide. Et elle descendit vite l'escalier, effleurant la rampe de sa main légère. « Que vous jouerai-je » demanda-t-elle en ouvrant le piano. « Oh, ce que vous voudrez, » répondit Lavretsky en se plaçant de façon à pouvoir la regarder. Lise préluda quelque temps. Enfin, elle leva un regard vers Lavretsky et s'arrêta. La figure de celui-ci avait une expression si étrange, si extraordinaire. « Qu'avez-vous ? » lui demanda-t-elle. « Rien, » répondit-il. « J'éprouve une douce quiétude. Je suis content de vous voir, » continua-t-il. Il me semble, dit Lise quelques instants après, que s'il m'avait réellement aimé, il n'aurait pas écrit cette lettre. Il aurait dû deviner que je ne pouvais en ce moment lui faire une autre réponse. Peu importe, répondit Lavretsky. Ce qui importe, c'est que vous ne l'aimez pas. Taisez-vous. Que dites-vous là? J'ai toujours devant les yeux l'ombre de votre femme, et vous me faites peur. Valdemar, ne trouvez-vous pas que ma Lisette joue joliment? Disait en même temps Maria Dmitrievna à Panchine. Oui, répondait Panchine, très joliment. Maria Dmitrievna jeta un regard bienveillant sur son partenaire. Mais celui-ci prit un air plus important, plus attentif que jamais, et déclara 14 de roi. Lavretsky n'était plus un jeune homme. Il ne pouvait se méprendre longtemps sur le sentiment que lui inspirait Lise. Ce jour-là, il acquit définitivement la conviction qu'il l'aimait. Il n'en ressentit guère de joie. « Est-il possible, pensa-t-il, qu'à 35 ans, je n'ai pas autre chose à faire que de confier mon âme à une femme ? Mais Lise ne ressemble pas à l'autre. Ce n'est pas elle qui m'aurait préparé une vie d'humiliation. Elle ne m'aurait pas détourné de mes occupations. Elle m'aurait inspiré elle-même une activité honnête et sérieuse, et nous aurions cheminé ensemble vers un noble but. Oui, tout cela est fort beau, dit-il, pour clore ses réflexions. Mais c'est qu'elle ne voudra pas suivre cette route avec moi. Ne m'a-t-elle pas dit que je lui faisais peur ? À la vérité, elle n'aime pas Panchine. Triste consolation. Lavretsky partit pour Vassilievskoïe, mais il n'y tint pas plus de 4 jours. L'ennui l'en chassa. L'attente le tourmentait aussi. Il ne recevait aucune lettre et la nouvelle donnée par M. Édouard demandait confirmation. Il se rendit à la ville et passa la soirée chez les Kalitine. Il lui était aisé de remarquer que Maria Dmitrievna lui en voulait, mais il parvint à l'adoucir en perdant avec elle une 15 roubles au piquet. Il put entretenir Lise, et une demi-heure environ, bien que la veille la mère eût recommandé à sa fille de montrer moins de familiarité avec un homme qui avait un si grand ridicule. Il observa en elle quelques changements. Elle semblait plus rêveuse que de coutume. Elle lui fit un reproche de s'être absentée. Puis elle lui demanda s'il irait à la messe le lendemain. Le lendemain était un dimanche. « Allez-y, lui dit-elle, avant qu'il eut le temps de répondre. Nous prierons ensemble pour le repos de son âme. » Elle ajouta qu'elle ne savait que faire, qu'elle ne savait pas si elle avait le droit de faire attendre Panchine. « Pourquoi ?» lui demanda Lavretsky. « Parce que je commence à soupçonner de quelle nature sera ma résolution. » Elle prétexta un mal de tête et monta à sa chambre en lui tendant d'un air irrésolu le bout de ses petits doigts. Le lendemain, Lavretsky se rendit à l'église. Lise s'y trouvait déjà. Elle priait avec ferveur. Ses regards étaient pleins d'un doux éclat. Sa jolie tête s'inclinait et se relevait par un mouvement souple et lent. Il sentait qu'elle priait pour lui, et son âme s'abîma dans une sorte d'extase. Mais, malgré cette douce émotion, il se sentait la conscience troublée. La foule recueillie et grave, la vue de visages amis, l'harmonie du chant, l'odeur de l'encens, les longs rayons obliques du soleil, l'obscurité des voûtes et des murailles, tout parlait à son cœur. Il y avait longtemps, si longtemps qu'il était invité à l'église, qu'il avait tourné ses regards vers Dieu, et en ce moment même, aucune prière ne sortait de sa bouche. Il ne priait pas même en pensée, mais il prosternait, pour ainsi dire, son cœur dans la poussière. Il se ressouvint que, dans son enfance, il n'achevait jamais la prière qu'après avoir senti sur son front, comme une faible sensation, le contact d'une aile invisible. C'était, pensait-il alors, son ange gardien qui venait le visiter, manifestait son consentement. Il leva son regard sur Lise. C'est toi qui m'as amené ici, se dit-il. Effleure aussi mon âme de ton aile. Lise continuait à prier doucement. Son visage lui paraissait radieux et il sentait son cœur se fondre. Il réclamait de cette âme, sœur de la sienne, le repos et le pardon pour son âme. Sur le parvis, ils se rencontrèrent. Elle l'accueillit avec une gaieté grave et amicale. Le soleil éclairait le gazon de la cour de l'église et prêtait plus d'éclat aux vêtements variés et aux mouchoirs bigarrés des femmes. Les cloches des églises voisines retentissaient dans les airs, les oiseaux gazouillaient sur les haies des jardins. Lavretsky se tenait la tête découverte et le sourire aux lèvres. Un vent léger se jouait dans ses cheveux et les mêlait au ruban du chapeau de Lise. Il l'aida à monter en voiture avec Linotchka, donna toute sa monnaie aux pauvres et se dirigea lentement vers sa demeure. Des journées douloureuses commencèrent alors pour lui. Une pensée l'obsédait. Chaque matin, il se rendait à la poste, décachetait d'une main fébrile ses lettres et ses journaux, et ne trouvait jamais rien qui pût confirmer ou contredire la fatale nouvelle. Par moments, il avait horreur de lui-même. « Mais comment n'ai-je pas honte, se disait-il, d'attendre la confirmation de la mort de ma femme comme le corbeau attend sa proie ?» Il allait tous les jours chez les Kalitines, sans s'y trouver plus à l'aise. La maîtresse de maison le boudait évidemment, et le recevait du haut de sa grandeur. La politesse de Panchine était exagérée. L'aime en proie à sa misanthropie le saluait à peine, et, ce qui était plus triste, Lise semblait l'éviter. Quand par hasard ils restaient seuls ensemble, au lieu de l'ancienne confiance, ils ne trouvaient plus de part et d'autre que de l'embarras. Elle ne savait que lui dire et lui se sentait troublé. Lise avait changé dans ces quelques jours. On remarquait de l'inégalité dans son humeur, une certaine agitation secrète dans sa voix, dans son rire, dans tous ses mouvements. Maria Dmitrievna, que l'égoïsme aveuglait, ne voyait rien. Mais Marfa Timofievna commençait à faire des observations sur sa favorite. Lavretsky se reprochait souvent d'avoir montré le numéro du journal à Lise. Il ne pouvait se dissimuler qu'il y eut quelque chose de blessant pour la délicatesse d'une âme pure dans cette situation. Il supposait que le changement de Lise était causé par la lutte qu'elle se livrait elle-même, par ses hésitations sur la nature de sa réponse définitive à Panchine. Une fois, elle lui rendit un roman de Walter Scott qu'elle lui avait emprunté. « Ah, vous avez lu ce livre ?»« Non, je n'ai pas la tête au livre, » répondit-elle en essayant de s'éloigner. « Attendez un moment, » dit-il, « il y a si longtemps que nous ne sommes restés seuls. » « Vous avez l'air de me craindre. »« En effet. »« Mais pourquoi, au nom du ciel ?»« Je ne sais pas. » Lavretsky se tut. « Dites-moi, » reprit-il, « vous n'avez pas pris un parti ?»« Que voulez-vous dire ?» murmura-t-elle sans lever les yeux. « Vous ne me comprenez pas. » Le visage de Lise s'enflamma subitement. « Ne me questionnez pas, » dit-elle avec vivacité. « Je ne sais rien, Je ne me comprends pas moi-même. Et elle s'éloigna aussitôt. Le lendemain, Lavretsky arriva chez les Kalitine après dîner et trouva des préparatifs pour une prière du soir. Dans un coin de la salle à manger, on avait déjà placé plusieurs de ces images recouvertes de plaques de métal incrustées de pierreries sur une table carrée couverte d'une nappe blanche appuyée contre le mur. Un vieux serviteur vêtu d'un fric-frac gris et chaussé de souliers traversa la pièce lentement et sans faire de bruit plaça deux bougies devant les images, fit le signe de la croix, s'inclina et sortit du même pas. Le salon était vide et sombre. Lavretsky en fit le tour et demanda si c'était la fête de quelqu'un. On lui répondit à voix basse que non, mais que cette cérémonie se faisait à la demande de Lisaveta Mihailovna et de Marfa Timofeyevna, qu'on avait même voulu faire apporter l'image miraculeuse, mais elle était partie pour visiter un malade à 30 verstes de la ville. Le prêtre arriva bientôt avec ses acolytes. C'était un homme d'âge mûr et au front chauve. Il toussa bruyamment dans l'antichambre. Les dames sortirent alors à la file du cabinet pour recevoir sa bénédiction. Lavretsky les salua en silence et un salut silencieux lui fut rendu. Le prêtre resta quelque temps debout, toussa encore une fois, et demanda d'une voix de basse dont il étouffait l'accent « Faut-il commencer ?»« Commencez, mon père, » dit Maria Dmitrievna. Il revêtit ses ornements, le servant mit une étole, et d'une voix pleine de componction, il demanda du charbon. Une odeur d'encens se répandit dans l'appartement. On vit apparaître dans l'antichambre les domestiques et les femmes de chambre qui se groupèrent en masse à la porte. Rosseka, qui ne descendait jamais au rez-de-chaussée, apparut tout d'un coup. On la poursuivit. Effrayée, elle se mit à tourner autour de la pièce. Enfin, un laquais parvint à la prendre. Les prières commencèrent. Lavretsky se serrait contre le mur dans un coin. Il était sous l'influence d'impressions étranges et tristes. Il ne pouvait se rendre compte lui-même de ce qu'il éprouvait. Maria Dmitrievna occupait la place d'honneur devant le fauteuil. Elle faisait le signe de la croix d'un geste languissant, avec des airs de grande dame, remuait lentement la tête ou levait les yeux au ciel. Elle s'ennuyait, évidemment. Marfa Timofeyevna paraissait toute livrée à ses préoccupations. Quant à Nastasia Kaporna, elle se prosternait jusqu'à terre et faisait le moins de bruit possible. Lise ne bougea pas, ne fit pas un mouvement. Il était aisé de voir à l'expression concentrée de son visage qu'elle priait avec ferveur. À la fin du service, en s'approchant de la croix, elle baisa aussi la main rouge du prêtre. Maria Dmitrievna engagea celui-ci à prendre du thé. Il dépouilla ses vêtements sacerdotaux, prit un air mondain et passa avec les dames au salon. La conversation était médiocrement animée. Le prêtre but 4 tasses de thé. Il essuyait à chaque instant son front chaud avec son mouchoir. Il raconta, entre autres histoires, que le marchand Havarchninovov avait fait don de 700 roubles pour doter la coupole de l'église et fit connaître à la compagnie une recette infaillible contre les taches de rousseur. Lavretsky essaya de s'établir auprès de Lise, mais le maintien de la jeune fille était sévère, presque roide. Elle ne lui accorda pas un regard. Il semblait qu'elle affectât de ne point le voir. Dans son exaltation, elle gardait une attitude grave et réservée. Lavretsky, au contraire, se sentait l'humeur gaie et pouvait à peine modérer son sourire. Mais son cœur était troublé. Il se retira enfin, plein d'appréhension secrète. Il sentait qu'il y avait dans l'âme de Lise un coin qu'il ne pouvait pénétrer. Une autre fois, Lavretsky, dans le salon, prêtait l'oreille aux longues dissertations de Gwenelolovski, quand, tournant inopinément la tête du côté de Lise, il surprit, fixé sur lui, le regard profond et scrutateur de la jeune fille. Il y pensa toute la nuit. Il aimait, mais son amour n'était plus pas celui d'un enfant. Se consumer en vains soupirs n'était plus de son âge. Et d'ailleurs, ce n'était pas là le sentiment que pouvait inspirer Lise. Mais l'amour a des tourments pour tous les âges. Il lui était réservé de les éprouver tous. Un jour, fidèle à son habitude, Lavretsky se trouvait chez les Kalitine. À une journée de chaleur accablante, succédait une soirée tellement belle que Maria Dmitrievna, malgré son aversion pour les courants d'air, fit ouvrir portes et fenêtres en déclarant qu'elle ne jouerait pas. C'était péché, disait-elle, de ne point jouir de la nature par un temps si délicieux. Il n'y avait là d'autres étrangers que Panchin. Sous l'influence de cette poétique soirée, il se sentait en verve. Mais ne voulant pas chanter devant Lavretsky, il se lança dans la poésie. Il dit, avec un certain art, mais en exagérant l'intonation et en marquant trop l'attention, quelques poésies de Lermontov. Pouchkine n'avait pas encore repris son ancienne vogue. Puis, comme content de ses élans, il se mit à déclamer contre les générations modernes à propos de la Douma et ne laissa pas d'échapper l'occasion de dire comment il aurait changé tout cela s'il avait le pouvoir entre ses mains. « La Russie, disait-il, n'est pas à l'unisson de l'Europe, il faut lui faire prendre son niveau. » On dit que nous sommes jeunes, c'est une erreur. D'ailleurs, le génie de l'invention nous manque. Lermontov lui-même avoue que nous n'avons pas seulement inventé une souricière. Il est donc naturel que nous imitions les autres. Nous sommes malades, dit Lermontov. Je suis de son avis. Mais nous ne sommes malades que parce que nous ne sommes qu'à demi-européens. Notre remède est dans notre mal. Le cadastre, pensa Lavretsky. Chez nous, continua-t-il, les meilleures têtes en sont convaincues. Au fond, tous les peuples sont les mêmes. Il suffit de leur donner de bonnes institutions, et le but sera atteint. On peut, à la rigueur, respecter les coutumes et les usages nationaux. C'est notre affaire à nous autres, il allait ajouter, homme d'État. À nous autres employés. S'il le faut, ne vous inquiétez pas, les institutions modifieront elles-mêmes les usages les plus enracinés. » Et Maria Dmitrievna applaudissait aux paroles de Panchin. « C'est plaisir, se disait-elle, de posséder dans son salon un homme d'une si haute intelligence. » Lise gardait le silence, appuyée à la fenêtre. Lavretsky se taisait aussi. Maria Timofievna, qui jouait avec une de ses amies dans un coin de la pièce, murmurait tout bas. Panchine parlait avec abondance en parcourant le salon, mais sous l'empire d'un secret dépit. On lui dit qu'il voulait provoquer une réplique en s'attaquant à la génération. Un rossignol avait élu son domicile dans un buisson de lilas du jardin. Les premiers accents de son concert nocturne interrompaient ses discours éloquents. Les premières étoiles s'allumaient à l'horizon teinté de rose, au-dessus des sommets immobiles des tilleuls. Lavretsky se leva pour répondre à Panchine et la discussion s'ouvrit. Lavretsky défendait les jeunes gens et les mœurs nationales. Il faisait bon marché de lui-même et de sa génération, mais il s'armait vigoureusement en faveur de la jeunesse, de ses convictions, de ses tendances et de ses nobles inspirations. Panchine répondait d'un ton tranchant où perçait une vive irritation. Les gens d'esprit, disait-il, avaient pour mission de tout refaire. Et il s'emporta à tel point qu'oubliant son titre de gentilhomme de la chambre et son rôle d'employé, il qualifia Lavretsky de conservateur rétrograde et se permit une allusion lointaine sur sa fausse position dans le monde. Lavretsky garda tout son calme et n'éleva pas la voix. Il battit Panchine sur tous les points et lui démontra l'impossibilité d'improviser ainsi une civilisation, de mettre en œuvre les plans imaginés par l'orgueil des hautes sphères administratives, plans que ne justifiaient ni la connaissance des besoins du pays, ni la ferme croyance dans un absolu, fût-il même négatif. À l'appui de son opinion, il citait sa propre éducation. Avant tout, ajoutait-il, il faut qu'on reconnaisse la vérité nationale, il faut qu'on s'incline devant elle. Sans cet acte d'humilité, la hardiesse, même contre le mensonge, est impossible. Il ne se défendit pas contre le reproche, à son avis mérité, d'une dépense inconsidérée de temps et de force. Bon, tout cela est bien bel et bon, s'écria Panchine d'un ton de dépit. Vous voilà rentré en Russie, alors qu'allez-vous y faire?
Labourer la terre, répondit Lavretsky, et labourer aussi bien que possible.
C'est très méritoire, assurément, répondit Panchine. Mais l'on m'a dit que vous aviez déjà obtenu de grands succès. Mais. Convenez que chacun n'est pas apte à ce genre d'occupation.
Une nature poétique, interrompit Maria Dmitrievna, ne peut pas labourer.
Et puis, Vladimir Nikolaïevitch, vous êtes appelé à faire de grandes choses.
Oh, c'était trop même pour Panchine. Il fut embarrassé et essaya de diriger l'entretien sur la beauté du ciel étoilé, sur la musique de Schubert. La conversation ne battait que d'une aile. Et de guerre lasse, il proposa une partie de piquet à Maria Dmitrievna.
Comment, par une si belle soirée? Dit-elle d'une voix traînante. Néanmoins, elle demanda des cartes. Panchine fit sauter l'enveloppe avec bruit. Pendant ce temps-là, Lise et Lavretsky, comme s'ils obéissaient à une convention tacite, allèrent se placer auprès de Marfa Timofeyevna. Ils se sentirent si heureux l'un près de l'autre qu'ils eurent peur de rester seuls ensemble. Ils sentaient que le trouble des derniers jours avait disparu pour jamais. La vieille dame donna une petite tape amicale sur la joue de Lavretsky et le regardant d'un air malin en branlant la tête.
Oh, tu l'as bien arrangé, cet homme d'esprit, lui souffla-t-elle à l'oreille, ce beau parleur.
Le salon devint silencieux. On n'entendait que le pétillement des bougies par moments, le bruit d'une main sur le tapis vert, ou une exclamation, ou le compte des points. En même temps, le chant du rossignol retentissait, pur et vibrant, comme une bravade, et versait dans la pièce ses flots mélodieux, avec l'humide fraîcheur du soir. Lise n'avait pas prononcé une parole pendant la discussion, mais elle avait écouté attentivement Lavretsky et partageait secrètement son opinion. La politique l'intéressait peu, mais le ton de suffisance de l'employé, oh, il ne s'était jamais manifesté de la sorte, la choquait. Son mépris pour la Russie la blessa. Lise ne se doutait pas qu'elle fût patriote, mais elle se sentait à l'aise avec les vrais Russes. La tournure de l'esprit russe la charmait. Elle ne faisait aucune difficulté de causer les heures entières avec le staroste de sa mère quand il venait en ville. Elle lui parlait comme à un égal, sans qu'on pût voir aucune morgue dans sa condescendance. Lavretsky sentait tout cela. Il ne se serait pas donné la peine de répondre à Panchin. Il n'avait parlé que pour Lise. Ils n'échangèrent pas un mot et leurs yeux se rencontrèrent à peine. Tous deux comprenaient que ce soir-là, leurs cœurs s'étaient encore rapprochés, que leurs sympathies et leurs antipathies étaient les mêmes. Ils différaient sur un seul point, mais Lise espérait en secret ramener le pêcheur à Dieu. Il s'était assis auprès de Marfa Timofievna et semblait suivre son jeu. Ils le suivaient en effet, mais en même temps leur cœur se dilatait et de ce qui les environnait, rien n'échappait à leur sens. Le rossignol chantait pour eux. Pour eux, les étoiles scintillaient, les arbres murmuraient, la nuit tiède et sereine les berçait dans sa voluptueuse étreinte. C'était avec délice que Lavretsky abandonnait tout son être au flot qui l'emportait. Mais la parole n'exprimera jamais ce qui se passait dans l'âme pure de la jeune fille. C'était un mystère pour elle-même. Que cela reste donc un mystère pour tout le monde. Personne ne sait, n'a vu et ne verra jamais comment la semence confiée à la terre et destinée à la vie et à la floraison se développe et mûrit. 10 heures sonnèrent, Marfa Timofievna se retira avec sa fidèle Nastasia Karpovna, Lavretsky et Lise firent quelques pas dans le salon, s'arrêtèrent devant la porte ouverte qui donnait dans le jardin. Leurs regards plongèrent dans les ténèbres lointaines, puis se rencontrèrent. Ils sourirent. Il semblait que leurs mains allaient s'unir et que leurs cœurs allaient s'épancher l'un dans l'autre. Ils retournèrent vers Maria Dmitrievna et Panchine, dont le piquet traînait en longueur. La dernière levée faite, la maîtresse de maison quitta enfin, en gémissant, son fauteuil garni de coussins. Panchine prit son chapeau et baisa la main de Maria Dmitrievna. Il y a des gens bienheureux, observa-t-il, qui peuvent au moins dormir ou jouir des douceurs de la nuit. Quant à lui, il était obligé de la passer au travail, courbé sur de stupides paperasses. Il salua froidement Lise, il lui gardait rancune de lui faire attendre sa réponse, et s'éloigna. Lavretsky le suivit. Ils se séparèrent à la porte. Panchine, du bout de sa canne, réveilla son cocher, se carra dans son drotchki et la voiture partit. Lavretsky ne se sentait pas disposé à rentrer. Il se dirigea vers les champs. La nuit était calme et claire, quoiqu'il n'y eût pas de lune. Il erra longtemps à travers l'herbe humide de rosée. Un étroit sentier s'offrit à lui, il le suivit. Ce dernier le conduisit jusqu'à une clôture en bois devant une petite porte que, d'un mouvement machinal, il essaya d'ouvrir. La porte céda en grinçant légèrement comme si elle n'eût attendu que la pression de sa main. Lavretsky se trouva dans un jardin, fit quelques pas sous une allée de tilleuls, il s'arrêta tout étonné. Il reconnut le jardin des Kalitines. Aussitôt, il se rejeta dans l'ombre portée d'un massif de noisetiers et resta longtemps immobile, plein de surprise. « Oh, c'est le sort qui m'a conduit, » pensa-t-il. Tout était silencieux autour de lui. Aucun son n'arrivait du côté de la maison. Il avança avec précaution. Au détour d'une allée, l'habitation lui apparut. Deux fenêtres seulement étaient faiblement éclairées. La flamme d'une bougie tremblait derrière les rideaux de Lise, et dans la chambre de Marfa Timofievna, une lampe faisait briller de ses reflets rougeâtres l'or des saintes images. En bas, la porte du balcon était restée ouverte. Lavretsky s'assit sur un banc de bois, s'accouda et se mit à regarder cette porte et la fenêtre de Lise. Minuit sonnait à l'horloge de la ville. Dans la maison, la petite pendule frappa aigrement 12 coups. Le veilleur les répéta en cadence sur sa planche. Lavretsky ne pensait à rien, n'attendait rien. Il jouissait de l'idée de se sentir si près de Lise, de se reposer sur son banc dans son jardin, où elle venait parfois s'asseoir. La lumière disparut dans la chambre de Lise. « Repose en paix, douce jeune fille, » murmura Lavretsky, toujours immobile, le regard fixé sur la croisée devenue obscure. Tout à coup, la lumière reparut à l'une des fenêtres de l'étage inférieur, passa devant une seconde croisée, puis devant la troisième. Quelqu'un s'avançait, tenant la lumière en main. « Est-ce Lise possible ?» Lavretsky se souleva. Une forme connue lui apparut. Lise était au salon. Vêtue d'une robe blanche, les tresses de ses cheveux tombant sur les épaules, elle s'approcha lentement de la table, se pencha et, déposant le bougeoir, chercha quelque chose. Puis elle se tourna vers le jardin, blanche, légère, élancée. Sur le seuil, elle s'arrêta. Un frisson parcourut les membres de Lavretsky. Le nom de Lise s'échappa de ses lèvres. La jeune fille tressaillit et essaya de pénétrer l'obscurité. « Lise !» répéta plus haut Lavretsky en sortant de l'ombre. Lise, chancelante, avança la tête avec terreur. Elle le reconnut. Il la nomma une troisième fois et lui tendit les bras. Elle se détacha de la porte et entra au jardin. « Vous ?» balbutia-t-elle. « Vous, ici ?»« Moi, oui. Ah, écoutez-moi, hein, » dit Lavretsky à voix basse. Et saisissant sa main, il la conduisit jusqu'au banc. Elle le suivit sans résistance. Sa figure pâle, ses yeux fixes, tous ses mouvements exprimaient un indicible étonnement. Lavretsky la fit asseoir et se plaça devant elle. « Je ne songeais pas à venir ici, le hasard m'a amené. Je vous aime, » dit-il d'une voix timide. Lise leva lentement ses yeux sur lui. Il semblait qu'elle comprît enfin ce qui se passait et où elle en était. Elle essaya de se lever, mais ce fut en vain. et elle se couvrit le visage de ses mains. « Lise !» murmura Vronsky. « Lise !» répéta-t-il. Mais il s'agenouilla devant elle. Lise sentit un léger frisson passer sur ses épaules. Elle serra les doigts avec plus de force encore contre son visage. « Mais qu'avez-vous ? » dit Lavretsky. Il s'aperçut qu'elle pleurait. Tout son corps se glaça. Il comprit le sens de ses larmes. « M'aimeriez-vous réellement ? » demanda-t-il tout bas, en effleurant ses genoux. « Oh, levez-vous, levez-vous, Théodore Ivanovitch !» s'écria la jeune fille. « Mais que faisons-nous ensemble ?» Il se leva et s'assit sur le banc auprès d'elle. Elle ne pleurait plus et le regardait attentivement, avec les yeux tout humides. « Oh, j'ai peur. Que faisons-nous ? » répéta-t-elle. « Je vous aime, lui dit-il. Je suis prêt à donner ma vie pour vous. » Elle frissonna encore une fois, comme si elle eût été frappée au cœur, et leva les yeux au ciel. « Tout est dans les mains de Dieu, dit-elle. « Mais vous m'aimez, Lise, nous serons heureux. » Elle baissa les yeux, il l'attira doucement à lui, et le front de la jeune fille s'appuya sur son épaule. Il lui releva la tête et chercha ses lèvres. Une demi-heure après, Lavretsky était à la porte du jardin. Il la trouva fermée et fut obligé de sauter par-dessus la palissade. Il rentra en ville en traversant les rues endormies. Un sentiment de joie indicible et immense remplissait son âme. Tous ses doutes étaient morts désormais. Disparaît au passé, sombre vision, pensait-il. Elle-même, elle est à moi. Tout à coup, il crut entendre dans les airs au-dessus de sa tête un flot de sons magiques et triomphants. Il s'arrêta. Les sons retentirent encore plus magnifiques. Ils se répandaient comme un torrent harmonieux et il lui sembla qu'il chantait et racontait tout son bonheur. Il se retourna. Les sons venaient de deux fenêtres d'une petite maison. « L'aime !» s'écria Lavretsky en se précipitant vers leur maison. « L'aime, l'aime » répéta-t-il à grands cris. Les sons s'arrêtèrent, et la figure du vieux musicien en robe de chambre, les cheveux en désordre, la poitrine découverte, apparut à la fenêtre. « Ah ah !» dit-il fièrement, « c'est vous ?»« Christopher Fedorovitch !» « Quelle est cette merveilleuse musique ? De grâce, laissez-moi entrer !» Le vieillard, sans prononcer une parole, lui jeta avec un geste de dignité exaltée la clé de sa porte. Lavretsky se précipita dans la maison et voulut en entrant se jeter dans les bras de Lem. Mais celui-ci l'arrêtant d'un geste impérieux et lui montrant un siège... « Asseoir-vous, écoutez-vous » s'écria-t-il en russe d'une voix brève. Il se mit au piano, jeta un regard fier et grave autour de lui et commença. Il y avait longtemps que Lavretsky n'avait rien entendu de semblable. Dès le premier accord, une mélodie douce et passionnée envahissait l'âme. Elle jaillissait pleine de chaleur, de beauté et d'ivresse. Elle s'épanouissait, éveillant tout ce qu'il y a de tendre, de mystérieux, de saint dans l'humaine nature. Elle respirait une tristesse immortelle et allait s'éteindre dans les cieux. Lavretsky se redressa. Il se tint debout. pâle et frissonnant d'enthousiasme. Ses sons pénétraient dans son âme, encore ému des félicités de l'amour. « Encore, encore !» s'écria-t-il d'une voix brisée après le dernier accord. Le vieillard lui jeta un regard d'aigle, se frappa la poitrine et lui dit lentement dans sa langue maternelle « C'est moi qui ai fait cela, car je suis un grand musicien !» Et il joua une seconde fois sa magnifique composition. Il n'y avait pas de lumière dans la chambre. La clarté de la lune qui venait de se lever glissait obliquement par la fenêtre ouverte. L'air vibrait harmonieusement. La pauvre petite chambre obscure semblait pleine de rayons et la tête du vieillard se dressait haute et inspirée dans la pénombre argentée. Lavretsky s'approcha et l'étreignit dans ses bras. Lem ne répondit pas à ses embrassements. Il chercha même à l'éloigner du coude. Longtemps il le regarda, immobile, d'un air sévère, presque menaçant. « Ah ah !» reprit-il par deux fois. Enfin son front se rasséréna, il reprit son calme, répondit par un sourire au compliment chaleureux de Lavretsky, puis il se mit à pleurer en sanglotant comme un enfant. « C'est étrange, dit-il, que vous soyez précisément venu en ce moment. Mais je sais tout. »« Vous savez tout ?» dit Lavretsky avec étonnement. « Vous m'avez entendu, répondit Lem. N'avez-vous donc pas compris que je sais tout ?» Lavretsky ne put fermer l'œil de la nuit. Il resta assis sur son lit. Élise non plus ne dormait pas. Elle priait.